Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau.
Le Mamadou de cette chanson de François Béranger, c'est Mamadou Konté. Il est connu comme le fondateur du célèbre festival de musique Africa Fête, mais il est plus méconnu comme militant révolutionnaire très actif dans les années 70. Mamadou Konté a en effet participé aux luttes dans les foyers de travailleurs immigrés. Il a également participé au lancement des Révolutions Afrique. Gilles de Staël était à ses côtés à cette époque. Après sa mort le 20 juin dernier, il lui rend hommage dans son livre Mamadou m'a dit. Mais ce livre est aussi l'occasion de nous éclairer sur tout un pan oublié du militantisme révolutionnaire. Dans le cadre de la thématique L'an 08, Gilles de Staël, qui est aujourd'hui journaliste et peintre, est l'invité de La Grenouille.
Les colons sont partis, ils ont mis à leur place une nouvelle élite. De noir bien blanchi, le monde blanc rigole. Les nouveaux, c'est bizarre, sont pires que les anciens. C'est sûrement un hasard. Le monde blanc rigole quand un petit sergent se fait sacré empereur avec mille glorioles. Après tout, c'est pas grave du moment que la terre produit pour les blancs ce qui est nécessaire. Le coton, l'arachide, le sucre, le cacao remplissent les bateaux, saturent les entrepôts.
Gilles de Staël, bonjour.
Bonjour.
Toute votre aventure révolutionnaire démarre en 69 dans les foyers de travailleurs africains de la région parisienne. À propos de ces foyers, vous parlez d'apartheid et de colonialisme à domicile. Pourquoi ces formules ?
Les travailleurs africains vivaient, à la différence du reste de l'immigration, dans des foyers et ne pouvaient pas vivre ailleurs. Par exemple, ils ne vivaient pas dans les bidonvilles. Il n'y avait pas de travailleurs africains dans les bidonvilles. Ils ne vivaient pas en ville non plus. Donc c'était très différent de l'immigration portugaise ou de l'immigration arabe. Ils vivaient dans les foyers. Les foyers appartenaient à tous à des associations qui étaient des couvertures. En réalité, c'était l'association Loi de 1901 qui était propriétaire, qui la plupart, c'était le cas du foyer où habitait Mamadou, c'était l'association ASOTRAF, Association de Solidarité aux Travailleurs Africains en France, un nom très joli, dont le président, c'était pas des, on disait des marchands de sommeil, mais c'était pas des voyous vagabonds. Le président était un type qui s'appelait Georges Larcher. Georges Larcher était sénateur, gaulliste. Il avait été auparavant, pendant très longtemps, sénateur de la communauté française à l'époque coloniale. Donc il était sénateur du Sénégal à l'époque coloniale. Il était le conseiller personnel du président Senghor. Il était membre du conseil d'administration et président de diverses très grandes sociétés d'exploitation au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc c'était un personnage à la fois économique et politique de ce qu'on peut appeler, ce qu'on pouvait appeler le néocolonialisme, ce qu'on appellerait aujourd'hui la France-Afrique, et de ces réseaux extrêmement serrés et très largement occultes qui lient directement les régimes politiques des anciennes colonies africaines au monde politique et économique français. Donc là, on avait déjà une structure de caractère très nettement colonial et la prolongation et le maintien, très au-delà des indépendances, le maintien de rapports parfaitement coloniaux de ce qu'on appelait autrefois, avant les indépendances, la main-d'œuvre indigène. On ne parlait pas de les immigrés, ça s'appelait... Les gars avaient une carte de travail qui était la carte de main-d'œuvre indigène. C'était comme ça. Donc c'était le maintien de la politique de main-d'œuvre indigène. Ces foyers, eux-mêmes, donc gérés et dirigés par ces associations, avaient des règlements intérieurs qui interdisaient à tout Français d'y pénétrer. Et donc qui faisaient que les contacts entre les habitants des foyers et la société française était pratiquement interdit. Les femmes n'avaient pas le droit de pénétrer et les Français, en général, n'avaient pas le droit de pénétrer. Eux-mêmes, comme immigrés, n'avaient pas le droit de venir avec... Il n'y avait aucune femme, jamais aucune femme dans l'immigration. Sauf à un moment, sont arrivées des cuisinières des foyers quand, à travers la lutte, on a demandé qu'on fasse des cuisines, etc. Alors bon, elles avaient un contrat de travail, c'était exclusivement les cuisinières. Donc, c'est une immigration vraiment structurée d'une manière très proche de la main-d'œuvre esclave de l'époque coloniale, isolée par des règlements intérieurs, et les gardiens de ces foyers, qui étaient donc les concierges ou gérants, comme on les appelait, étaient tous des anciens flics ou gendarmes coloniaux de l'époque coloniale qui parlaient les langues vernaculaires, etc. Donc on avait une reproduction parfaite du système colonial en banlieue parisienne. Donc on a appelé ça le colonialisme à domicile. Il n'y avait pas d'autre mot.
Et au niveau des conditions de vie dans ces foyers, vous parlez également beaucoup d'insalubrité.
Est-ce que vous c'était épouvantable, mais ça n'a pas changé. Hein. D'abord, les associations existent toujours. Moi, j'étais la semaine dernière à Montreuil, parce qu'on va préparer avec le bouquin tout un truc à Montreuil, où il y a beaucoup de foyers. J'étais dans les foyers de Montreuil, où j'étais pas retourné depuis des années. C'est épouvantable, c'est les mêmes foyers. Hein. Et c'est épouvantable, et c'est le même système. Ça n'a pas changé d'un poil. La condition était effroyable, la tuberculose était galopante, tout le monde avait la tuberculose, on peut dire pratiquement. Ces foyers étaient généralement des usines désaffectées, des ateliers désaffectés, etc., qui étaient attribués à ces associations propriétaires. Ils étaient attribués du reste d'une manière, là aussi, de surexploitation et éhontée, c'est-à-dire que les pouvoirs publics attribuaient ces usines désaffectées à ces associations qui les acquéraient pour des prix de bananes. Et par ailleurs, les associations qui géraient donc ces foyers étaient subventionnées par le Fonds d'action sociale qui versait à ces associations la différence entre les prestations sociales que les salariés français normalement reçoivent et celles qui sont normalement dues dans les pays d'origine des travailleurs immigrés. Ce qui fait que les immigrés y payaient les mêmes cotisations sociales sur leur feuille de paye que leurs collègues d'usine, mais ils ne recevaient en prestations que les prestations qu'ils auraient dû recevoir dans leur pays d'origine, qui étaient évidemment infiniment moindres, mais parfois il n'y en avait pas du tout. La différence, elle est au Fonds d'action sociale, qui versait en subvention aux marchands de sommeil en question. C'est quand même assez remarquable. Donc c'est pas les Français qui payent hein, les foyers de travailleurs africains. C'était, voilà, l'État, alors c'était des dortoirs, alors les gars payaient des... aujourd'hui, j'ai posé la question à Montreuil, ils payent 180 euros par lit, dans des chambres où il y a quelque chose comme 10 ou 15 ou 18 lits, c'est-à-dire des revenus de loyer phénoménaux par mois. Pour un loyer individuel apparemment modeste, 180 euros, c'est très difficile de trouver ça dans la région parisienne, donc ça a l'air d'être un loyer vraiment d'aide. C'est un lucre phénoménal pour les associations. Donc voilà, et les foyers étaient dans un état de délabrement total.
Pour répondre à ces conditions de vie déplorables dans les foyers de travailleurs immigrés, vous allez à la rencontre justement de ces immigrés dans la perspective de créer des comités de locataires et à plus long terme de mener une révolution. Alors comment on arrive à parler de révolution à des travailleurs immigrés à l'époque ?
C'est compliqué, hein, ça a l'air bizarre. Hein. Déjà, aujourd'hui, ça peut paraître bizarre parce qu'aujourd'hui, parler de révolution à quelqu'un, on demande « révolution quoi ?» technologique, sexuel, informatique, hein, musical, mais révolution tout court, ça personne n'utilise plus ce mot. Or, c'est évident que 68, c'était pas la révolution sexuelle, c'était pas la révolution, je sais pas quoi, c'était la révolution tout court, ce qui veut dire tout à fait autre chose, ce qui normalement en France devrait quand même avoir un certain écho comme forme, comme terme. On cherchait effectivement, nous étions des militants issus de 68. Nous étions militants avant 68, mais enfin, ce sont les militants issus de 68. Et après 68, comme militants, nous recherchons le contact avec la classe ouvrière en vue de construire un parti révolutionnaire. Ce que nous tirions, nous, comme leçon de 1968, c'était que 68 avait montré que la révolution était toujours possible dans nos sociétés, la révolution, enfin celle de la Commune de Paris, la révolution russe, celle de la guerre d'Espagne, enfin la grande révolution sociale qui abolit le capitalisme, hein, c'était aussi clair que ça, qu'elle était toujours présente et à l'ordre du jour dans la société, simplement qu'elle avait été bloquée par le coup de frein donné par le Parti communiste qui ne la voulait pas, mais qui en même temps était le parti qui, à l'époque, représenter la force sociale supposée de cette révolution et qui s'était manifestée par la grève générale avec l'occupation de 68, qui était la classe ouvrière. Donc notre problème, c'était quoi ? C'était conquérir cette classe ouvrière et la retirer de l'influence du Parti communiste pour l'entraîner à nouveau vers la révolution. C'était aussi clair que ça. Et donc, nous recherchions le contact avec la classe ouvrière. Les ouvriers immigrés faisaient évidemment partie de la classe ouvrière et pas sur les marges. C'était Renault, c'était Citroën, c'était tout ça. Donc c'était la classe ouvrière dans son aspect le plus profond et central. Et il avait très peu, les travailleurs immigrés étaient fort peu influencés par le Parti communiste. Ils ne faisaient pas partie de l'histoire du Parti communiste, de la classe ouvrière française. Et donc il nous semblait qu'ils étaient plus en mesure de s'ouvrir à ces idées nouvelles sans préjugés. Ça, c'était un point de vue d'à peu près de l'ensemble des courants révolutionnaires qui agissaient. Pour ce qui nous concernait, nous, précisément, les choses ont été parfaitement circonstancielles. J'appartenais à une organisation, du reste, qui n'avait pas une idée très approfondie sur la question de l'immigration. D'autres courants, comme les maoïstes, visaient très explicitement l'immigration avec cette idée que nous, c'était... Bon, on ne savait pas trop à ce moment-là, en 68, 69. Et une de nos camarades, qui était réunionnaise, donc qui s'estimait colonisée elle-même, personnellement je pense à juste titre, était une très jeune cinéaste, elle était étudiante cinéaste, sortait tout juste de l'IDEC, et était partie au Sénégal pour faire un film sur la répression de 68 au Sénégal, dans un esprit anticolonial, parce que c'était sa profonde motivation. Elle revenait de là, elle avait fait des tournages clandestins, etc., avec les gens qui avaient participé à 68 au Sénégal, parce que ça avait été très important au Sénégal, 68. Et elle apprend que dans un foyer de travailleurs africains, jusque-là, on ne savait même pas qu'existaient ces foyers de travailleurs africains. Personne ne le savait. Personne n'en parlait jamais. Les ouvriers français, les syndicats français ne le savaient pas. Il y avait plein d'ouvriers africains sur les chaînes, à Renault, dans l'automobile, etc. On les trouvait plutôt sympas et tout, mais comment ils vivaient, où ils vivaient, personne ne s'en préoccupait trop. Et puis on apprend, au mois de juillet 69, qu'une grève a éclaté à Saint-Denis, dans un foyer de travailleurs africains, tout ça c'est une nouveauté, une grève des loyers, et que le leader de la grève est à la prison de Fresnes. C'est-à-dire que tout simplement, les flics, le leader de la grève avait voulu négocier avec la SOTRAF, justement, qui était la propriétaire, et les flics, sans coup férir, l'avaient coffré, ils l'avaient même pas envoyé au commissariat, lui, il avait été directement dans une prison centrale, à Fresnes. Et ils avaient mal calculé leur coup, les flics n'avaient pas du tout pensé un seul instant qu'un type pareil, quelconque nègre boinal à un foyer perdu, pouilleux, était en réalité, ce qu'ils ignoraient, délégué CGT aux usines Renault-Billancourt. Alors, foutre à la prison de Fresnes un délégué CGT de Renault-Billancourt en juillet 69, ça, c'était une faute politique extrêmement grave que les flics n'avaient pas imaginée. Mais que le gouvernement, quand il a tout de suite, ça a fait un schtroumpf pas terrible, la CGT s'est emballée, le PC s'est emballé, parce que pour le PC, on ne pouvait pas toucher un cheveu d'un délégué CGT de Renault-Billancourt. Ça, c'était pire que d'envoyer une bombe atomique sur Moscou à l'époque. Et donc, tout de suite, émoi général, le Batili Boubacar en question, ce délégué, prudemment est retiré de Fresnes et remis dans son foyer, mais c'était trop tard. Donc, cette camarade, Madeleine Beauséjour, revenant du Sénégal avec sa caméra, fonce à Saint-Denis, à ce foyer, pour rencontrer et pour continuer son film. C'est comme ça que toutes les choses ont démarré. C'était un foyer à SOTRAF. Bon, le groupe de militants qui était avec elle l'accompagne, commence toute une série de contacts, de liens, etc. Et c'est comme ça que ce travail commence à se constituer. Du foyer à SOTRAF de Saint-Denis au foyer à SOTRAF de Pierrefitte, il suffisait d'y aller. Entre les foyers, il y avait une circulation perpétuelle, permanente, il y a toujours, parce que les mêmes familles, les mêmes villages, etc., se répartissent d'un foyer à l'autre. Et dans cet univers d'apartheid, pour les travailleurs africains qui étaient là, bon, ils allaient en ville, ils sortaient, très excités de connaître l'Europe, la capitale, Paris, etc. Mais il y avait ce sentiment d'être étranger dans ce pays, parler très mal français et tout ça. Donc ils se retrouvaient entre eux, ils allaient d'un foyer à l'autre et tout. Donc elle se retrouve à Pierrefitte, et cette jeune camarade, que j'ai connue exactement à ce moment-là. Le lendemain qu'on s'est connus, on est tombé amoureux l'un de l'autre. C'est devenu ma femme à l'époque. Et donc, je l'accompagnais, je me suis associé à son travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu Mamadou Konté, qui était, lui, au foyer à Sotraf de Pierrefitte, qui s'appelait le foyer Lénine.
Et vous disiez tout à l'heure que les Français n'avaient pas le droit d'entrer dans ces foyers. Donc vous, concrètement, comment vous avez fait pour...
Comme il y avait les gars en question, bon, il y avait une situation de lutte à Saint-Denis, donc il y avait une tension. Mais du coup, il y avait suffisamment de travailleurs dans le foyer pour s'opposer à ce que le gérant nous empêche d'entrer. Enfin, fallait y aller, hein. Et puis dire au gérant, on te colle contre le mur si tu nous empêches. Enfin bref, c'était chose dure. Mais donc on y allait. Ensuite, bon, on connaissait les gars, on se donnait rendez-vous. Ensuite, ils nous faisaient entrer en nous cachant. Par exemple, à Pierrefitte, il y avait l'entrée, comme ça, c'était aussi une ancienne usine désaffectée. Les premières grandes chambrées, c'était les ateliers, comme ça, qui étaient sur la droite après avoir passé le portail d'entrée. Les bâtiments administratifs du gérant, c'était sur la gauche. Donc, on entrait, on se penchait, on passait sous la fenêtre du gérant, et hop, on filait par la porte qui donnait sur les anciens ateliers. Et on se trouvait dans la chambre 13, qui était la chambre de Mamadou.
Le peuple en a marre. On en a marre. L'Afrique en a marre. L'humain du pays dévalué. La démocratie bafouée. La pauvreté continue. La division encouragée, les opposants emprisonnés, les libertés confisquées, les populations effrayées, les droits de l'homme ignorés. Oh, Panama, le peuple en a marre. On en a marre, l'Afrique en a marre.
Rastafari, bientôt la révolution de la jeunesse africaine. Prêt à dire non, non et non. Les guerres civiles en Afrique ont déplu. Les guerres tribales en Afrique ont déplu. Les guerres religieuses, on en veut plus. Les guerres ethniques, on en veut plus. On en a marre. Le peuple en a marre.
Un petit bond de quelques années dans l'histoire. De 1969 jusqu'à 1971 et encore après, les comités de locataires organisent des mouvements de grève dans les foyers d'Île-de-France. Des esprits révolutionnaires africains s'y forment. Et en 1972, une marche supplémentaire est franchie avec la création de Révolution Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de cette organisation ?
C'était un petit peu la conséquence de tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire que nous étions des militants révolutionnaires, nous voulions construire un parti révolutionnaire, et ce travail faisait partie de ce projet. Bon, mais partout, dans toute l'Afrique, sous domination française, et dans toute l'Afrique en général, c'est une époque de poussée, de bourgeonnement révolutionnaire tout à fait nouveau, qui n'est pas du tout... à proprement parler, dans la continuité de ce qui avait été avant les mouvements indépendantistes. C'est une nouvelle jeunesse qui se réclame généralement de 68, qui se réclame aussi du maoïsme, enfin de toute une série de choses comme ça, de Cuba, de tout, et qui donc nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Ce sont vraiment nos cousins, quoi. Et on se disait, on était révolutionnaires internationalistes, on se disait, ce travail dans les foyers ne peut véritablement prendre toute sa dimension politique et son sens que si il s'inscrit aussi dans la naissance de forces révolutionnaires nouvelles en Afrique. Et c'est comme ça que naît l'idée de dire, bon, il faut construire un regroupement politique des militants qui apparaissent dans les foyers, qui ne soit pas simplement l'adhésion de ces militants à une organisation révolutionnaire française. Ça répond pas véritablement aux problèmes politiques de ces copains-là. Il faut construire une organisation politique, un groupe politique africain. Et donc, c'est Révolution Afrique.
Donc, le but de Révolution Afrique, on l'a bien compris, c'était de monter l'avant-garde révolutionnaire pour, à long terme, renverser les dictatures en Afrique. Avec du recul, est-ce qu'il y a eu des éléments de réussite ?
Quand on voit l'état de l'Afrique aujourd'hui, on a envie de pleurer tous les matins. Donc, parler de réussite, ça serait quand même très difficile. Par contre, je pense, même en toute modestie, que c'est un travail qui a eu un sens réel. C'est un travail qui a été vaincu. Mais je n'appelle pas ça autrement. On a perdu, bon, quand on lira le livre, enfin les gens qui liront le livre quand même verront qu'on a perdu physiquement beaucoup de militants dans cette histoire. Il y a eu l'histoire du mouvement du 22 février au Congo. Il y a eu le mouvement populaire de libération à Djibouti, qui était né, entre autres, de militants de Révolution Afrique entrés à Djibouti. Le mouvement du 22 février au Congo, bah, il a été exterminé. Le mouvement populaire de libération à Djibouti a été, au moment du passage de l'indépendance, etc., ça a été le mouvement qui a renversé le fantoche, Djibouti était une colonie française encore, qui a renversé donc la colonie française, qui était représentée par le gouverneur Aref, avec un courage extraordinaire en 1976. Puis, au moment quand la France a décidé de faire une indépendance à sa manière, qui s'y sont opposés, qui ont été un très grand mouvement de jeunesse et de jeunes filles, qui a été, lui aussi, qui a connu une répression terrible, féroce, répression qui s'est, on peut dire, achevée vers 1994, après qu'ils aient tenté une lutte armée, qu'ils avaient pratiquement reconquis Djibouti à travers une armée populaire de 5000 hommes et femmes qu'ils avaient constitués, et qu'ils ont été, peut-être par innocence politique, ils ont cru à une interposition des forces françaises. Ils étaient en train de conquérir, ils assiégeaient la ville de Djibouti. Il y a eu une interposition des forces françaises pour négocier, blablabla. Ça a duré 6 mois, pendant lesquels l'armée djiboutienne a été réorganisée avec tous les mercenaires polonais qu'on a pu recruter, qui ont formé une aviation. Les forces armées djiboutiennes ont été quadruplées d'effectifs. Et puis l'armée française s'est retirée sur l'interposition et ça a été la liquidation. Moi, j'ai mené campagne pour faire sortir de prison ces anciens copains du MPL. Ils avaient formé le FRUD, le Fonds pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie, en 99-2000. Encore, je menais campagne à l'UMA, à travers l'UMA et RFI, pour faire sortir ces copains de prison. Beaucoup sont morts en prison, etc. Bon. Donc, ce n'est pas une réussite, c'est un échec, ces choses-là. Mais ce sont des défaites. Ce ne sont pas des défaites déshonorantes, mais ce sont des défaites douloureuses. Le travail que Révolution Afrique a tenté directement comme organisation à travers cette accumulation qui se fait dans les foyers, etc., et l'organisation vraiment donc était le noyau, a connu deux projets à la fin des années 70, parce que justement il y avait cette expérience de Djibouti, etc., en réfléchissant, on disait mais vraiment il faut presser les choses et commencer à implanter les copains au Sénégal et au Mali. Il y a eu un projet de caractère d'implantation paysanne. On avait dit, ça, il faut le développer au Mali. Donc, c'était un projet de très longue haleine qui reposait surtout d'une coordination des foyers, tout un réseau, tout un travail dans les villages, à la fois de développement économique et de démocratisation, d'éducation politique, d'éducation populaire, etc. Et un projet qui était un projet beaucoup plus directement politique, qui visait à entrer en lien avec cette jeunesse d'extrême gauche qui était en contact avec nous, etc. Bon, au Sénégal, dont Mamadou a été le responsable. Ce projet au Sénégal a échoué. Le projet au Mali n'a pas échoué. Ce projet s'est développé dans toute la région de Kaï, qui est aujourd'hui une région qui connaît un très grand développement démocratique et un développement politique incontestable. Et où on retrouve là-dedans d'innombrables militants des foyers de la région parisienne. Là, vraiment, enfin, moi, j'en connais quelques-uns. Ils ont même réussi, maintenant, à élire deux députés à l'Assemblée nationale, qui sont des anciens copains hein, que je connais. Donc, ce n'est pas... c'est quand même quelque chose d'assez réjouissant. Le projet du Sénégal, qui était beaucoup plus politique, qui reposait sur la construction d'un centre culturel à Thiès, à travers lequel on pourrait clandestinement, mais en même temps publiquement ramifier, etc. Bon, a été un échec. Dans un contexte, c'est un contexte difficile, et dont Mamadou était le responsable. Il n'était pas seul, loin de là. Et en 82, 81, Mamadou est rentré en France. Moi aussi, j'étais parti, il est rentré en France. Et c'est à ce moment-là qu'ont été relancées les Africa Fêtes.
Comment les pouvoirs publics réagissent face à la Révolution Afrique ?
Ben, ils nous interdisent. C'est-à-dire que... Non seulement ils nous interdisent, mais j'ai écrit ce livre en le racontant. Et c'est une histoire que je n'avais jamais racontée. Donc c'était vraiment du tout cru 30 ans après. Et en le relisant, j'ai pris la mesure, parce qu'on le vivait, mais on n'a jamais fait des bilans de ce genre, du fait que depuis le premier jour, à l'évidence, on n'a jamais été lâché par les services de répression. Il y avait trois premiers militants des foyers au départ, qui était Mamadou, Maoudo, dont je parle, et Amadi Barrow Diouf, qui était du foyer de Charonne. C'était les trois premiers militants. Amadi Barrow Diouf, au moment où on allait constituer le groupe, était parti au Sénégal pour faire un travail de prospection, justement, et de contact. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu parce qu'on l'a retrouvé, après qu'il ait eu rencontré les flics Barbouze de Colin, qui était le commissaire Colin, divisionnaire français, ministre de l'Intérieur du Sénégal à l'époque. Eh ben, on l'a retrouvé son cadavre à l'hôpital de Dakar. Voilà ce qui est arrivé à Mali Barrow Diouf. Donc, le premier jour, on ne nous a pas lâchés. Et quand j'ai fait le compte de tous les gens qui nous ont approchés, etc., il est évident qu'on ne nous a pas lâchés à aucun moment. On a été interdit en 76. On a été la première organisation qui a été mise dans le collimateur dans toute la répression qui s'en est suivie ensuite, dans l'immigration. Le MPL a été exterminé, on pourrait dire. Donc voilà la réaction des pouvoirs français. On lira le livre.
C'était une interview de Gilles de Staël, militant révolutionnaire dans les années 70 aux côtés de Mamadou Konté. Gilles de Staël, auteur du livre Mamadou Madi, sorti aux éditions Sileps au prix de 20 euros. Et pour les amateurs de musique africaine, le festival Africa Fête, dont Mamadou Konté est le fondateur, fêtera ses 30 ans les 27 et 28 juin prochains au cabaret Aléatoire à Marseille.
J'ai trouvé le métro. N'est pas un petit boulot, mais je suis un nègre.